Il y a un an, la Nouvelle-Calédonie s'embrasait et connaissait plusieurs semaines de violences terribles, déclenchées par un projet de loi portant sur le dégel du corps électoral dans l'archipel. Au total, 14 personnes seront tuées par balle au cours de ces violences en l'espace de 4 mois, qui feront aussi plusieurs centaines de blessés. Mais les émeutes ont également réduit en cendres de très nombreux commerces et entreprises. Un an plus tard, les dégâts sont encore largement visibles dans l'archipel et les conséquences de cet embrasement sont nombreux. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Benoît Trépied, anthropologue et chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la question de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Benoît, ces événements en Nouvelle-Calédonie, ils ont un an déjà. À l'époque, on a pu utiliser de nombreux termes pour qualifier cet épisode de violence dans l'archipel. Alors, on a utilisé les termes émeute, violence, révolte. Un an plus tard, avec un peu de recul, comment est-ce qu'on peut décrire ce qu'on a vu en Nouvelle-Calédonie il y a un an?
Ça reste difficile à qualifier, hein, ce qui s'est passé. Il y a toujours pas de consensus un an plus tard. Certains parlent d'exactions, d'autres d'émeutes, d'insurrections. Et je pense qu'il faudra un certain nombre, il faudra mieux comprendre tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est joué réellement dans ce moment-là, dans les mois et les années qui viennent, pour pouvoir mettre un mot sans doute plus adéquat, une catégorie plus adéquate. À minima, je pense qu'on peut dire qu'on a eu affaire à un soulèvement qui était à la fois politique et social. Il y avait vraiment les deux aspects, puisqu'il y avait d'une part les mobilisations contre le dégel du corps électoral, qui là a été organisé, encadré par en particulier la CCAT, la Cellule de coordination des actions de terrain, qui a fait des manifestations, qui a fait des points de mobilisation, etc. Mais cette mobilisation politique, elle a été articulée, doublée, dépassée, on ne sait pas vraiment encore, par un mouvement de révolte sociale qui est véritablement a mis le feu à Nouméa, qui a découlé de ces frustrations sociales accumulées depuis des années, en particulier par la jeunesse kanak et océanienne pauvre de la ville, qui s'est jetée à corps perdu dans l'insurrection et qui a, à mon sens, très largement dépassé le cadre stricto sensu de la mobilisation politique initiale sur le dégel du corps électoral. Donc c'est un peu le cocktail de ces deux éléments qui a semé le chaos dans l'agglomération de Nouméa.
Alors le bilan humain de ce chaos, il est terrible. On parle de 14 tués par balle, mais aussi de plusieurs centaines de blessés. Mais on imagine qu'il y a énormément de blessés qui n'ont pas été comptés et qu'il est difficile d'avoir un bilan précis.
À l'heure actuelle, on a le bilan des autorités officielles. Il y a de plus en plus, enfin, il y a un certain nombre d'enquêtes et contre-enquêtes médiatiques par des avocats, par des collectifs de victimes qui sortent de plus en plus hein, ces jours-ci. Encore récemment, tout récemment, il y a eu un reportage du Média Blast qui s'est appuyé sur une contre-enquête menée par les collectifs voilà, autour de la défense des prisonniers, etc., qui a souligné qu'il y avait eu sans doute énormément d'aspects de violence policière qui n'ont pas été comptabilisés encore. Donc là encore, on est complètement dans le flou et c'est au fur et à mesure de ces travaux, de ces enquêtes, contre-enquêtes, des procédures judiciaires aussi, hein, qui vont permettre de révéler des choses, qu'on aura une vision plus large de ce qui s'est passé, plus précise. Après, d'un autre côté, sur le moment et dans les mois suivants, il y a eu aussi énormément de rumeurs, de toutes sortes en fait, que les réseaux sociaux ont accéléré, ont amplifié. Donc on a eu beaucoup de mal et on continue d'avoir du mal à se repérer précisément dans la quantification précise des violences liées à ce qui s'est passé à partir du 13 mai 2024.
Alors, il y a eu des violences, il y a eu un bilan humain très lourd, mais il y a aussi eu des dégâts matériels très importants et des conséquences économiques énormes sur l'archipel. Comment on évalue la situation sur place aujourd'hui, un an après le début?
Elle est extrêmement critique, hein. Le tissu économique est complètement ravagé. Il y a énormément d'investisseurs, de patrons, d'entrepreneurs qui ont mis la clé sous la porte. Il y en a beaucoup qui partent. Et ceux qui restent hésitent vraiment à réinvestir. En particulier parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir pour le moment, hein.
Alors la question de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, on va y revenir un tout petit peu plus tard dans cette interview. À l'époque, au début des violences en Nouvelle-Calédonie et dans les mois qui ont suivi, on a vu certains bouleversements politiques en métropole, entre des élections législatives anticipées, pas mal de changements de ministres aussi. Comment est-ce que l'instabilité politique en France métropole a affecté la réponse apportée à la situation qui était urgente et qui reste urgente en Nouvelle-Calédonie?
Le premier élément, c'est qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin de l'année dernière, le dossier calédonien est tombé en déshérence du point de vue de l'État, évidemment, puisqu'en fait, on ne peut pas traiter un dossier aussi chaud dans un contexte de gestion des affaires courantes au niveau politique de l'État, et que le niveau de tension entre indépendantistes et loyalistes était tel qu'il fallait absolument que l'État puisse reprendre la main et faire une espèce de médiation. Donc cette situation, elle a perduré pendant très longtemps, on le sait, d'abord pendant tout l'été. Le premier gouvernement Barnier a commencé à renouer les fils du dialogue et paf, il a été de nouveau renversé. Et puis, depuis le début de l'année, c'est Manuel Valls qui a repris le flambeau. Mais on sait par ailleurs que ce gouvernement, il est très menacé, toujours. Que Manuel Valls lui-même, il est très menacé au sein du gouvernement, hein. Il y a des tensions très fortes, même à Paris, quoi, entre Retailleau, Darmanin, Le Cornu, qui sont plutôt hostiles au projet qu'avait porté Valls. Donc, il y a pas mal de tensions qui continuent de fragiliser tout ça. Alors, à minima, je pense, mais on est à l'abri de rien, mais je pense que les parlementaires français ont compris que de voter de leur côté unilatéralement le dégel du corps électoral, comme le prenaient les loyalistes l'année dernière, c'était pas une solution, parce que si vous braquez les indépendantistes, en fait, les canailles qui sont prêts à tout pour se battre pour leur indépendance et leur décolonisation. Mais maintenant, on rentre en plus dans une période d'instabilité terrible, puisqu'il va y avoir les élections provinciales de Calédonie, les municipales de 2026 et finalement les présidentielles de 2027. Et c'est à se demander si une solution réelle va pouvoir se dégager, puisqu'il faut un État stable. Et comment est-ce qu'on aura un État stable avant 2027? C'est une gageure. Donc cette instabilité politique au sein de l'État et les tensions internes au sein de l'État français à Paris a un impact direct sur l'état du débat à Nouméa.
Le projet de loi sur le dégel du corps électoral, il a été abandonné par le gouvernement de Michel Barnier, c'était en octobre dernier. Depuis, vous l'avez dit, la France a un autre Premier ministre, François Bayrou, qui a fait de Manuel Valls, son ministre des Outre-mer. Alors, vous l'avez dit, il s'est rendu plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est possible de revenir un petit peu sur en quoi a consisté son travail en Nouvelle-Calédonie? Comment il a tenté de renouer le dialogue?
Manuel Valls, il a vraiment tenté de fermer cette parenthèse en réalité, cette séquence de 3 ans où l'État a fait dévier la trajectoire de la Calédonie parce qu'il a changé d'attitude politique. Il s'est remis dans l'héritage rocardien. Il a compris que de toute façon, il n'y aurait pas de solution en Calédonie si la revendication de décolonisation des Kanaks n'était pas achevée. Donc il a dit clairement, il faut achever enfin la décolonisation. Et c'est ce qui a amené d'abord tous les gens à se mettre autour de la table alors que depuis un an, il ne parlait plus. Donc il a réussi, et ça c'était une réussite. Et puis au bout du bout du bout de ce travail, il a proposé ce projet de souveraineté avec la France, qui est finalement une sorte de compromis, sans doute à peu près le seul qui puisse marcher en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il à la fois il satisfait la revendication kanak de pleine souveraineté et il assure des garanties à ceux qui sont partisans du maintien dans la France. Et c'est cette solution, finalement, autour de laquelle la Calédonie tourne depuis 40 ans, on a beau dire, on a beau faire, on a beau chercher, c'est vraiment celle-ci qui est sans doute la voie de compromis qui permettrait de sortir le pays de l'ornière. Ça a été refusé par les loyalistes. Donc maintenant, il a été complètement désavoué et par les loyalistes et par les appuis des loyalistes à Paris, que sont messieurs Le Cornu, Darmanin, Retailleau et sans doute aussi Emmanuel Macron. Donc maintenant, on est complètement dans la panade. En quelques jours, les loyalistes se sont mis à dire que Manuel Valls, en fait, il avait promis l'indépendance, qu'il les avait trahis, qu'il avait tué les négociations, etc. Donc maintenant, on en est au point mort.
En mars dernier, vous avez sorti un livre, Décoloniser la Kanaky Nouvelle-Calédonie, pour tenter de comprendre l'embrasement de l'archipel il y a un an. Et vous évoquez notamment une situation qui couvait depuis longtemps, mais vous questionnez aussi l'efficacité des accords de Nouméa.
Oui, ces accords de Nouméa, ils ont ouvert un processus de décolonisation inédit et tout à fait intéressant, assez unique dans le monde, puisque c'était l'idée d'une accession progressive du pays à la pleine souveraineté avec un transfert progressif et irréversible de compétences, la reconnaissance de l'identité kanak au centre du dispositif et puis la construction d'une citoyenneté calédonienne qui est un espace de réconciliation entre les kanaks et les non-kanaks implantés dans le pays depuis très longtemps. Donc, ce projet, il a donné des fruits incontestables et c'est un très bon accord. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que Le souffle politique et l'espoir de 1998 s'est peu à peu amenuisé dans le temps, et en particulier que certaines mesures phares, comme justement le gel du corps électoral, qui est un droit lié à cette citoyenneté calédonienne, la loi de protection de l'emploi local, qui est un autre droit lié à la citoyenneté calédonienne, le choix des signes identitaires du pays, la reconnaissance préalable de l'identité kanak dans tous les aspects de la vie sociale, ces éléments cruciaux-là, ils ont été très largement, disons, court-circuités, attaqués, reniés au fil des années. Et ça, c'est aussi lié à un autre héritage paradoxal des accords, qui a été que, non pas en 98, mais déjà en 88, au moment de l'accord de Matignon, des accords de Matignon signés sous l'égide de Michel Rocard, la paix était revenue en partageant le pouvoir, et notamment dans l'espace, c'est-à-dire en créant trois provinces dont on savait que deux d'entre elles, en raison du découpage géographique et démographique, seraient aux mains des Kanaks, la province nord et la province des îles Loyauté. Mais en revanche, la province sud, où se trouve Nouméa, par contre, rester un fief loyaliste. Et cette logique de fief loyaliste n'a jamais cessé. En réalité, ça, elle s'est même renforcée avec presque un syndrome de citadelle assiégée. Donc c'est une façon de dire que le processus de décolonisation, tel que évoqué dans les accords, finalement, à bien des égards, il s'est arrêté aux portes de Nouméa. Nouméa a pu continuer à prospérer comme une ville blanche, en grande partie avec des quartiers très ségrégés, avec des zones... Finalement, les Kanaks ne sont pas vraiment les bienvenus. Et donc, c'est le lieu où les tensions coloniales et raciales héritées de ce passé colonial se sont le plus exacerbées. C'est vraiment à Nouméa que se concentrent les populations et aussi les inégalités et les discriminations. C'est là où elles sont le plus visibles parce qu'elles sont voisines. Donc, c'est de là qu'il y a une cocotte minute en fait qui s'est constituée à Nouméa et qu'on savait que ça risquait d'exploser à la moindre étincelle. C'est bien pour ça que quand les loyalistes et le pouvoir politique macroniste a voulu dégeler le corps électoral, la plupart des observateurs leur ont dit ne faites pas ça parce que vous allez mettre le feu dans un contexte déjà très inflammable.
Alors vous l'écrivez aussi, vous dites qu'à long terme, la Kanaky et Nouvelle-Calédonie explosera de nouveau si aucune réponse politique et sociale n'est apportée à la revendication kanak de souveraineté et d'indépendance. En fait, vous le redites, un avenir pacifique dans l'archipel, il passe essentiellement par l'indépendance kanak.
Oui, les Kanaks le disent avec leurs mots. D'ailleurs, Tjibaou l'avait déjà dit en 87, les Kanaks vous emmerderont jusqu'à l'indépendance. Et ces mots-là, les Kanaks vous emmerderont jusqu'à l'indépendance, content ou pas content, ils ont refleuri en mai 2024 partout à Nouméa, sur les murs, etc. C'est une façon de dire que cette revendication, elle se transmet de génération en génération. Et que ceux qui se sont insurgés l'année dernière, ce sont les enfants des accords, ce sont ceux pour qui les accords étaient faits. Donc ça dit bien que on a beau avancer, que tant que cette revendication de recouvrement de souveraineté, elle ne sera pas assouvie, il y aura toujours ces tensions, toujours cette insatisfaction. C'est bien pour ça que la vraie solution consiste à trouver une forme de recouvrement de souveraineté qui rassure les autres, les non-Kanaks, qui leur amène des garanties pour faire en sorte que tout le monde s'engage dans la construction d'un pays émancipé, où chacun a sa place et où le lien avec la France est redéfini. L'enjeu très fort, et ça parlera aux gens de SBS évidemment, en Calédonie, les gens regardent beaucoup vers l'Australie. Et la crainte des Kanaks, c'est d'aboutir à la situation des aborigènes d'Australie, c'est-à-dire d'être ultra minorisés dans le pays, et que finalement l'indépendance du pays soit une indépendance blanche, tout à fait comme ce qu'ils ont vécu avec l'indépendance de l'Australie vis-à-vis de la Grande-Bretagne, qui n'a pas amélioré la situation, la suggestion coloniale et l'aliénation coloniale qui pèse sur les peuples aborigènes. Donc l'enjeu est de trouver une autre solution. Comme les Kanaks représentent 40% de la population, ils ne sont pas minorisés comme le sont les aborigènes d'Australie. Et donc, ben, il faut travailler sur ces enjeux-là. Mais tant que ces revendications-là ne sont pas satisfaites, il y a fort à parier que le pays explosera encore et encore et encore parce que les Kanaks n'abandonneront jamais cette revendication d'indépendance.
Eh bien, merci Benoît Trépied d'avoir été avec nous pour nous parler de la situation en Nouvelle-Calédonie un an après les émeutes et pour nous avoir présenté votre livre Décoloniser la Kanaky Nouvelle-Calédonie, disponible aux éditions Anacharsis. Merci Benoît et à bientôt sur SBS.
Merci.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.